Bien, Monsieur Matsumura va faire aujourd'hui, donner aujourd'hui la troisième de ses quatre conférences autour de son nouveau et admirable dictionnaire du français médiéval que je porte à bout de bras, péniblement car il est lourd, mais tout de même sans effort car il tient en un volume et qu'on a une science immense sous un volume, dans un volume maniable. Ces conférences se suivent d'une façon extraordinairement logique et subtile. Elles ressemblent à leurs auteurs. D'abord, la première, comment lire les dictionnaires du français médiéval, eh bien, a conduit M. Matsumura à examiner d'un œil bienveillant, mais cependant critique, ses devanciers, en montrant leurs qualités et leurs défauts, et comment il a pu, en remarquant leurs défauts, essayer de ne pas les reproduire dans son propre dictionnaire, et il y est parvenu. La deuxième conférence sur le caractère régional du vocabulaire, en fait, poursuivait l'examen de ses devanciers, mais en mettant l'accent particulièrement sur cette attention au caractère régional des mots qui influe à la fois sur la zone dans laquelle ils sont utilisés, sur la fréquence de leur utilisation, sur le sens même et la valeur de leur utilisation. Et aujourd'hui, sa conférence a pour titre « En cherchant des attestations charnières », car évidemment, dès lors qu'on s'intéresse, et comment ne pas s'y intéresser, à la fois à la délimitation géographique d'un mot et ce qui va de soi naturellement à sa délimitation chronologique, eh bien, on est amené à porter un regard particulièrement attentif aux marges et aux frontières. Et donc, je lui ai sa parole. Je rappelle ce que je dis chaque fois, que la discussion sur l'ensemble des quatre conférences ou des quatre cours aura lieu la semaine prochaine, à la fin du dernier cours. Et ainsi, nous pourrons parler de cet ensemble qui est extrêmement cohérent et qui se prêtait mal à une discussion morcelée qui aurait amené fatalement à faire intervenir des éléments qui devaient être abordés dans la suite du discours. Et maintenant, mon cher, c'est à vous.
Merci beaucoup. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé de la prétendue première attestation du mot arçon au sens de petit arc que Wartburg avait attribué au psautier d'Oxford. La date précoce de cette attribution fautive risquerait d'induire en erreur les lecteurs, car si l'on rencontrait des occurrences du mot dans des textes du milieu du IIe siècle, on s'imaginerait qu'elles n'ont pas beaucoup d'intérêt puisqu'elles sont postérieures au psautier d'Oxford, alors quels seraient sans doute les témoignages les plus anciens de cet emploi. La recherche des occurrences précoces est ainsi un peu moins facile qu'on ne le croirait. Quand on fait de la lexicographie, on s'intéresse souvent à la première ou à la dernière attestation d'un mot. C'est ce qu'on appelle les attestations charnières. Ces dates nous permettent de nous faire une idée de l'histoire du mot. Depuis quand ce mot existe-t-il? Et s'il n'existe plus, quand est-ce qu'il a laissé sa dernière trace? Ce sont des questions qu'on se pose fréquemment. Pour retracer une histoire des mots, il ne suffit pas de s'intéresser uniquement à sa naissance et à son décès. Car les mots peuvent avoir changé de signification au cours du temps. Dans ces cas-là, on aimerait disposer d'une datation pour chacune des significations. Il en va de même pour les locutions et les proverbes. La graphie également peut avoir sa propre histoire. Le caractère géographique que j'ai évoqué la semaine dernière peut aussi avoir son importance dans l'histoire d'un mot, d'un emploi, d'une signification, d'une graphie, etc. Une lexicographie exigeante veut ainsi disposer d'une datation et d'une localisation détaillée pour chacun des aspects que peut avoir un mot. Pour vous montrer combien les tâches des lexicographes sont longues, je prends comme exemple un cas assez simple. Il s'agit de l'adverbe « hâtivement ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher sa date d'apparition en français ? On peut commencer par consulter des dictionnaires étymologiques élaborés pour le grand public. Si l'on ouvre le dictionnaire étymologique de langue française d'Oscar Bloch et Walter von Wartburg, on est vite déçu, parce que l'adverbe en est absent. Il en va de même dans le nouveau dictionnaire étymologique historique d'Albert Doza, Jean Dubois et Henri Mitterrand. Le dictionnaire étymologique du français de Madame Jacqueline Picoche ne relève pas non plus l'adverbe. Le dictionnaire étymologique historique de la langue française d'Emmanuel Baumgartner et M. Philippe Ménard ne le traite pas davantage. Tous ces auteurs ont enregistré le substantif « hâte », le verbe « hâter » et l'adjectif « hâtif », mais l'adverbe « hâtivement » n'a pas eu le droit d'être traité dans ces dictionnaires étymologiques portatifs. Si, ensuite, on se reporte au Petit Robert, sa version de 2013 donne seulement une date vague comme première attestation. C'est le XIe siècle. Il n'y a rien qui précise davantage. On peut déjà faire remarquer que cette façon de donner la date d'apparition est aujourd'hui souvent critiquée par les lexicographes, car un siècle, c'est quand même très long, et avec une indication si vague, on ne peut jamais savoir si c'est au début, au milieu ou à la fin de ce siècle que le mot a vu le jour. Dans cette condition, même si l'on rencontre le mot en question dans tel ou tel texte du XIe siècle, on ne peut pas savoir si cette nouvelle occurrence précède ou suit la première attestation qu'on connaissait jusqu'ici. De plus, la datation des textes n'est pas fixée une fois pour toutes. Si une œuvre datée un moment du XIe siècle a reçu une autre datation après de nouvelles études, la datation du mot doit être modifiée du même coup. Mais quand on vous donne seulement le XIe siècle comme indication chronologique sans parler d'un texte précis, au moment où une nouvelle datation de ce texte est proposée, cette information passe difficilement dans l'histoire du mot, parce que le rapport entre l'indication XIe siècle et ce texte nouvellement daté n'est pas perçu par la plupart des lexicographes. Ainsi, la date sans fondement est recopiée par des dictionnaires qui manquent d'esprit critique. Par conséquent, on s'efforce de nos jours de donner plus de précision. Au lieu de dire vaguement que le mot a eu sa première trace entre l'an 1000 et 1099, on préfère dire qu'il a été employé pour la première fois dans tel ou tel texte qui est daté de telle ou telle année. Dans le cas du Petit Robert, pourrait-on savoir quel est le texte désigné par cette date si vague qu'est le XIe siècle? Dans la liste des principales datations qu'on trouve dans l'annexe de ce dictionnaire, il y a deux œuvres du XIe siècle. D'une part, c'est la vie de Saint Alexis, datée de 1050. Et d'autre part, c'est la version d'Oxford de la chanson de Roland, qui est datée de 1080. Si vous êtes sérieux et patient, vous commencerez à lire ces deux monuments littéraires d'un bout à l'autre. Mais si vous n'avez pas assez de patience, vous chercherez des instruments qui vous permettent de savoir sans peine si le mot « hâtivement » apparaît dans ces deux textes. Heureusement, on dispose d'un glossaire complet de la vie de Saint Alexis. C'est un de ses éditeurs, Christopher Storey, qui l'a élaboré en 1968. Or, vous y cherchez en vain le mot « hâtivement ». Il n'y est pas répertorié. Après cette recherche rapide mais décevante, vous allez alors consulter une concordance de la chanson de Roland, car il en existe une. Elle a été établie en 1969, par Joseph Dagan. Mais dans cette concordance également, le mot que vous cherchez est absent. Ainsi, La recherche dans ces deux textes du XIe siècle n'a pas pu vous donner des résultats satisfaisants. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous concluez tout de suite que c'est une fausse impression et que la vraie première date doit être un autre siècle? Naturellement, les coquilles sont toujours possibles. Mais il vaut mieux garder cette possibilité comme le dernier recours et prendre plutôt au sérieux ce que dit le petit Robert. Supposons donc que la date donnée doive correspondre à quelque attestation que les rédacteurs ont trouvée quelque part et qu'ils ont datée du XIe siècle. Si l'on part de cette hypothèse, on peut se rappeler que souvent les dictionnaires sont faits sur des dictionnaires qui les précèdent. Le petit Robert aurait pu s'inspirer d'un de ses prédécesseurs pour proposer cette date qui nous occupe. Il faut que nous partions à la recherche de ce dictionnaire qui lui aurait fourni des attestations précoces du mot hâtivement. Comme on peut s'y attendre, la source immédiate du petit Robert paraît être le grand Robert. Dans son édition de 1957 et sa réédition de 1963, le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert a donné le XIe siècle comme date d'apparition de l'adverbe. Mais aucune précision supplémentaire n'y est donnée. Ainsi, ni le petit Robert ni le grand Robert ne peuvent nous apprendre dans quel texte le mot hâtivement a été employé pour la première fois. Si vous voulez remonter à la source du grand Robert, on peut avancer deux hypothèses. D'une part, il se serait inspiré du dictionnaire général. D'autre part, ce serait Littré qui lui aurait donné l'idée de dater du XIe siècle la première occurrence du mot. Parlons d'abord du dictionnaire général de la langue française. Il a été publié par Adolphe Hatzfeld, Arsène Darmstetter et Antoine Thomas entre 1890 et 1900. C'est le premier dictionnaire qui s'est efforcé de donner la date d'apparition de chacun des mots qu'il a enregistrés. Dans son article « Hâtivement », il donne comme première date le XIe siècle. De plus, on a le passage précis qui contient le mot. C'est le vers 622 du voyage de Charlemagne à Jérusalem. Or, on attribue aujourd'hui une autre date à ce texte qu'on appelle le pèlerinage ou voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople. On le date en effet de la deuxième moitié du IIe siècle. C'est donc le cas d'un texte daté variablement au cours du temps dont je vous ai parlé tout à l'heure. Grâce à l'indication précise du dictionnaire général, il est possible de considérer que la première attestation qu'il propose est plus tardive qu'il ne le pensait et qu'il faut maintenant chercher un autre témoignage qui puisse être antérieur au voyage de Charlemagne à Jérusalem. Une autre piste possible de la datation du petit Robert et du grand Robert est le dictionnaire de Littré. Comme on sait, Littré cite dans ses articles des témoignages anciens. Dans son article hâtivement, le premier texte qu'il allègue est appelé « Roncevaux ». Ce titre nous rappelle immédiatement la version d'Oxford de la chanson de Roland. Si c'était bien le cas, le plus ancien témoignage de l'adverbe serait dans ce texte qui, dans la liste du petit Robert, est daté de 1080, comme on l'a vu tout à l'heure. La concordance qu'on a consultée aurait-elle omis le mot ou bien est-ce que nous avons mal cherché? Pour nous faire sortir de cet embarras, Littré a eu la gentillesse de citer le vers de Roncevaux qui contenait le mot. C'est, je cite, « hastivement die Schütz aspiet ». Or, si, ayant cette ligne dans votre tête, vous relisiez 4000 vers de la chanson de Roland dans la version d'Oxford, vous seriez déçu encore une fois. La concordance avait bien raison. Ce texte ne contient pas le mot hâtivement. Alors, concluez-vous que Littré a attribué à tort sa citation à la chanson de Roland? Avant de tirer cette conclusion expéditive, il faut se rappeler que la chanson de Roland n'est pas transmise que par le manuscrit oxonien. Quand on parle de cette œuvre, on pense tout de suite à cette version. Mais il existe d'autres versions médiévales conservées dans différentes bibliothèques européennes. On les trouve en effet à Cambridge, à Châteauroux, à Lyon, à Paris et à Venise. Si donc vous cherchez la citation de Littré dans ces versions, vous serez enfin satisfait, car elle provient de ce qu'on appelle la version P, c'est-à-dire la version de la chanson de Roland, transmise par un manuscrit d'environ 1275, conservé à Paris dans la Bibliothèque nationale de France. C'est le vers 994 dans le corpus rolandien, publié en 2005 sous la direction de Joseph Dagan. On suppose aujourd'hui que cette version a été composée vers 1200, mais si l'on s'en tient à la date du manuscrit, on pourra la considérer comme une œuvre d'environ 1275. En tout cas, on ne pourra pas lui donner la date du XIe siècle. Ainsi, que ce soit au voyage de Charlemagne à Jérusalem de la deuxième moitié du IIe siècle que pensent le grand Robert et le petit Robert, ou que ce soit à la version parisienne de la chanson de Roland qu'ils font allusion, leur datation XIe siècle s'avère trop ancienne et n'est plus fondée sur aucun témoignage. On revient ainsi au point de départ et il faut partir à la recherche d'une nouvelle première attestation. Consultons d'abord le dictionnaire de Godefroy. Le mot hâtivement est recueilli dans trois articles différents. D'abord, dans le tome 4, sous la vedette hâtivement, on trouve cinq citations, dont la première vient de la chanson de geste du cycle des Laurents. Ensuite, dans le même tome 4, sous l'entrée hâtivement, on trouve trois citations qui vont depuis Lancelot en prose d'environ 1220 jusqu'à un document de 1377. Et enfin, dans le complément sous hâtivement, Godefroy cite 11 attestations, mais rangées en gros chronologiquement. Le premier exemple est celui qu'a cité le dictionnaire général, à savoir le voyage de Charlemagne à Jérusalem. Si l'on passe ensuite au dictionnaire de Toblerone, le mot hâtivement est rangé sous l'article hâtif. Il lui donne deux significations. D'une part, à la hâte, vite, immédiatement, d'autre part, bientôt, prochainement. Les exemples qui sont cités sont plus nombreux que dans le dictionnaire de Godefroy. Pour le premier sens, on a 37 exemples tirés de 25 textes différents. Et pour le deuxième sens, on a 5 exemples tirés de 4 textes différents. Ce qui est remarquable est qu'on y trouve de grands noms de la littérature médiévale, comme Chrétien III ou Marie de France, alors qu'ils étaient absents de Godefroy. Mais ce qui gêne un peu les lecteurs, c'est que les attestations ne sont pas rangées chronologiquement. Certes, le premier texte cité pour la première signification est l'histoire des Anglais de Geoffroy Gaimard, qu'on date aujourd'hui d'environ 1139. Mais les textes qui le suivent ne semblent pas obéir à un ordre bien établi, parce que le roman de Brut de Munich, dont la date de composition est d'environ 1200, précède le voyage de Charlemagne à Jérusalem et trois romans de Chrétien III qui lui sont antérieurs. Sans doute, quand Lomach a ajouté des occurrences à la liste de Tobler, il a perturbé l'ordre que suivait son prédécesseur. Car si l'on ne tient compte que des textes cités par Tobler, ils vont d'Erec de Chrétien III au Chevalier aux deux épées, en passant par la vie de saint Thomas Becket, les dialogues de saint Grégoire, les sermons de saint Bernard, etc. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la pertinence de la distinction des deux significations, on a au total plus d'une quarantaine d'exemples et le plus ancien témoignage vient de l'histoire des Anglais de Geoffroy Gaimard d'environ 1139. À ce stade, il y a une chose à faire, car, comme je vous l'ai dit dans les deux premières séances, on ne doit jamais se contenter des citations des dictionnaires. Il lui arrive quelquefois de ne pas être tout à fait exact. On a même des cas où les références sont fausses et où une attestation attribuée à un texte précoce se trouve en fait dans un autre texte plus récent. Il faut donc vérifier les passages cités par Toblerone dans une édition moderne fiable. Or, Si l'on consulte l'édition de l'Histoire des Anglais publiée par Alexander Bell en 1960, les citations qu'on cherche s'y retrouvent sans problème. Heureusement, ce sont les leçons du manuscrit de base et ce ne sont pas des résultats de correction. Pour revenir au traitement du mot hâtivement dans les dictionnaires, c'est cette première attestation de l'Histoire des Anglais qu'on trouve dans le tome 16 du Französisches Etymologisches Wörterbuch de Wartburg. Wartburg y indique que le premier témoignage se lit au vers 3849 de Gaimard. Le fascicule contenant cet article ayant paru en 1955, avant celui de Tobler-Lomatch publié en 1958, on peut attribuer à Wartburg le mérite d'avoir découvert cette occurrence précoce. En tout cas, son indication est laconique comme toujours, car il dit seulement que le mot hâtivement est attesté depuis l'histoire des Anglais en ancien et moyen français, et qu'en français moderne, on écrit hâtivement avec accent circonflexe. Wartburg n'entre pas dans le détail et il passe sous silence différentes graphies qui existaient au Moyen Âge et qu'on trouvait déjà dans les exemples cités par Godefroy. Quant à la partie diachronique du trésor de la langue française, elle est aussi courte que l'indication du dictionnaire de Wartburg. Dans son article hâtivement, le trésor signale en effet que le mot est attesté depuis environ 1140 et que cette première date correspond au vers 3841 de l'histoire des Anglais de Geoffroy Gaimard. Bref, des instruments de travail comme Godefroy, Tobler-Lomatch, le FEV et le Trésor de la langue française nous apprennent que le mot hâtivement est attesté depuis ce texte anglo-normand qu'est l'histoire des Anglais. Le fait que ce soit une œuvre anglo-normande vous donnerait sans doute envie de vous reporter à l'anglo-normand dictionnaire sur Internet. Si l'on consulte son article hâtivement, qui appartient à la deuxième phase de la deuxième version du dictionnaire, on y trouve 9 exemples, répartis en 2 groupes sémantiques. D'un côté, on a le sens de rapidement, immédiatement, de l'autre, le sens de hâtivement, d'une manière précipitée. Le plus ancien témoignage remonte au début du XIIIe siècle. C'est la Bible anglo-normande en vers décasyllabique, publié par M. Pierre Nobel en 1996. L'histoire des Anglais est absente de la liste des exemples. Cela nous rappelle une des particularités du dictionnaire anglo-normand, c'est qu'il ne tire pas profit des résultats du dépouillement de ses prédécesseurs, mais qu'il préfère enregistrer les occurrences qu'il a trouvées lui-même en lisant des textes. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans sa version récente, les rédacteurs de l'anglo-normand dictionary ont commencé à donner des renvois aux dictionnaires existants. Ainsi, dans l'article hâtivement, on est renvoyé au dictionnaire du français médiéval ou moderne, comme le FEV de Wartburg, le complément de Godefroy, le dictionnaire de Tobler-Lomatch, le dictionnaire étymologique de l'ancien français, le dictionnaire du moyen français et le trésor de la langue française. Mais ces références sont plutôt décoratives, puisque l'attestation précoce de l'histoire des Anglais n'est pas relevée dans l'article. Si les rédacteurs avaient jeté un coup d'œil sur le FEV, Tobler-Lomatch et le Trésor de la langue française, ou au moins un de ces 3 instruments, ils auraient pu apprendre que c'est un texte anglo-normand qui contient l'occurrence la plus ancienne du mot hâtivement. Avant de quitter cette recherche de premier témoin de l'adverbe dans la lexicographie, voyons comment il est traité dans le dictionnaire étymologique de l'ancien français, appelé le DUAF. Comme je vous l'ai dit dans la première séance, c'est un instrument qui veut être une synthèse parfaite des connaissances rassemblées par ses prédécesseurs. Il se propose donc, d'un côté, d'examiner toutes les attestations que de principaux dictionnaires antérieurs ont enregistrées et de l'autre, d'y ajouter les occurrences que les rédacteurs et des collaborateurs ont trouvées dans les glossaires de nombreuses éditions modernes ou ailleurs. Chacun des articles du dictionnaire étymologique de l'ancien français est divisé en 2 parties, c'est-à-dire la partie morphologique et la partie sémantique. Dans la partie morphologique sont relevées toutes les graphies d'un mot avec des références nécessaires qui précisent le titre, l'édition utilisée et le vers ou la page où se trouve le mot. Comme on le voit, c'est une entreprise ambitieuse, car ni Godefroy, ni Toblerone, ni Wartburg n'avaient eu l'idée de rassembler toutes les graphies des mots. Ils n'avaient fait que citer ou évoquer un certain nombre d'exemples où différentes formes se trouvaient représentées plus ou moins bien. Avec le DEAF, on a donc une liste qui veut être complète des graphies sur lesquelles un mot a été écrit en ancien français. Quant à la partie sémantique, elle donne les définitions du mot. Dans cette partie, pour chacun des sens, les attestations sont rangées par ordre chronologique. Quand il y a trop d'exemples, on se limite à une dizaine ou quinzaine d'attestations les plus anciennes, avec éventuellement quelques exemples postérieurs mentionnés pour des raisons particulières. Les lecteurs disposent ainsi de deux listes morphologiques et sémantiques établies selon des principes simples. Naturellement, ces répertoires ne sont jamais définitifs. Mais ce qui est utile, c'est qu'ils sont faciles à compléter ou à corriger. Quand vous lisez un texte, et si vous y rencontrez une attestation qui vous semble intéressante, vous pouvez tout de suite vous reporter à l'article correspondant du DEAF pour savoir quelle est la place qu'elle occupe dans les listes morphologiques et sémantiques. Il est bien possible qu'avec l'attestation que vous avez découverte, vous réussissiez à les compléter ou à les corriger. Pour réaliser ce genre de travail, les dictionnaires antérieurs ne pouvaient pas servir de point de départ facile. Avec le dictionnaire étymologique de l'ancien français, cela est devenu aisé à faire. En ce qui concerne l'adverbe « hâtivement » enregistré dans le deuxième fascicule de la lettre H, publié en 1998, le DEAF réunit plus d'une vingtaine de graphies, tandis qu'il n'admet qu'une seule signification, avec « hâte » en « hâte » sans tarder. Dans la partie sémantique, les 15 attestations les plus anciennes sont rangées chronologiquement depuis l'histoire des Anglais de Geoffroy Gaimard de 1139 jusqu'à la règle des hospitaliers en vers anglo-normand datée de 1185. La première attestation qu'il cite est donc l'histoire des Anglais, comme le faisaient le FEV, le Toblerone et le Trésor de langue française. Mais ce n'est pas tout. Si vous croyez que mon bavardage sur le mot hâtivement s'arrête là, vous vous trompez. Comme je viens de dire, les articles clairement établis du DEAF sont toujours très faciles à compléter ou à corriger. Ainsi, chaque volume de ce dictionnaire est accompagné d'une liste assez longue d'addenda et corrigenda. Pour consulter cette partie, la version en papier du DEAF est indispensable, car jusqu'ici, la version qu'on peut consulter sur son site Internet ne me semble pas permettre au lecteur d'y accéder facilement. Notre article hâtivement a été ainsi complété à la fin du volume H. Il fait l'objet d'un petit ajout dans les addendums, qui occupe une cinquantaine de colonnes de la fin du volume H publié en 2000. Là, on apprend que le mot existait avant l'histoire des Anglais, dans un texte qu'on date de la première moitié du deuxième siècle. C'est le Psautier de Cambridge, publié par Francisque Michel en 1876. Le 108e psaume contient en effet un passage où on lit le mot. C'est la nouvelle première attestation qui a échappé à plusieurs générations de lexicographes, bien qu'elle se trouve dans une publication de 1876. En profitant donc de cette découverte, je l'ai cité dans mon dictionnaire. Mais ce n'est pas encore la fin de cette petite histoire. Depuis la publication de mon dictionnaire, j'ai trouvé par hasard des attestations plus anciennes. On a en effet deux occurrences de l'adverbe dans une œuvre bien connue qu'on date du premier quart du deuxième siècle. Il s'agit du voyage de Saint Brandan par Benoît. Dans les deux cas, le mot hâtivement est bien la leçon du manuscrit de base et non pas une correction introduite par l'éditeur. Ce qui nous étonne, c'est que ces occurrences ont été bien relevées dans le glossaire de l'édition de Waters, publié en 1928. Les lexicographes pressés qui se contentent de dépouiller les glossaires sans lire le texte auraient pu y repérer ces attestations précoces. De plus, depuis quelque temps, le site de l'Anglo-Normand Dictionary propose une base de données où l'on peut faire une recherche rapide sur un grand nombre de textes. Le voyage de Saint Brandan fait partie de ces textes qu'on peut exploiter sans peine. Il en va de même d'un franc texte. Ces outils modernes nous fournissent d'ailleurs d'autres attestations assez précoces. Il s'agit d'une part des proverbes de Salomon par Samson de Nanteuil du milieu du XIIe siècle et d'autre part du roman de Brut de Vas qu'on date de 1155. Ces données nous permettent de compléter de la manière suivante l'article hâtivement du dictionnaire étymologique de l'ancien français. Le mot est attesté depuis environ 1113 dans le voyage de Saint Brandan composé par Benoît. Ensuite, il est employé dans les textes comme le Psautier de Cambridge, l'Histoire des Anglais de Geoffroy Gaimard, les Proverbes de Salomon de Samson de Nanteuil et le roman de Brut de Vas. Si l'Anglo-Normand Dictionary voulait devenir un dictionnaire historique, il pourrait recueillir ses quatre premiers témoins. Car parmi les cinq premiers textes, Vas est le seul auteur continental et le reste est anglo-normand. Il va sans dire que le petit Robert pourrait également adopter dans sa prochaine édition une nouvelle première date qu'est 1113, s'il se décidait à abandonner la date sans fondement du XIe siècle. Dans le cas de l'adverbe « hâtivement », on n'avait pas affaire à plusieurs significations, du moins si l'on suit la classification du dictionnaire étymologique de l'ancien français. Mais quand on veut étudier l'histoire d'un mot polysémique, il faut naturellement dater chacune des significations qu'il comporte. Malheureusement, les dictionnaires ne s'intéressent pas toujours à cette datation détaillée. Prenons comme exemple le substantif « genoux ». Si l'on consulte le trésor de la langue française, la partie diachronique de son article « genoux » nous apprend que le mot est attesté pour la première fois à la fin du Xe siècle dans la Passion de Clermont. C'est tout. Pourtant, dans sa partie synchronique, le même article distingue plusieurs sens et aussi il enregistre plusieurs expressions. Mais rien ne nous dit depuis quand ces différents emplois existent dans l'histoire du français. Je vais m'intéresser, entre autres, à un des emplois analogiques. Il s'agit du cas où le mot « genou » désigne, chez certains animaux, l'articulation de la jambe avec la cuisse. Le trésor de la langue française ne nous apprend pas quelle est la première attestation de ce sens. Le FEV de Wartburg ne nous aide pas non plus, parce que cet emploi n'est pas enregistré dans son article « Kenkulum ». Pour faire vite, je vais consulter le DEAF. Alors, son article « Genoï » nous donne la première date pour chaque signification et pour chaque locution. Si le sens qui nous intéresse, à savoir articulation de la jambe avec la cuisse chez l'animal, il dit qu'il existe depuis le milieu du XIVe siècle et que le premier témoin est un des miracles de Notre-Dame par personnage. De plus, en partant de l'article Genoï du DEAF, on peut savoir que cette première attestation provient du complément du dictionnaire de Godefroy. Quant au dictionnaire de Tobler-Lomatch, il enregistre certes le sens de articulation de la patte d'un oiseau de proie dans un texte d'environ 262, mais il passe sous silence l'emploi du mot appliqué à d'autres animaux. L'Anglo-Normand Dictionary est plus pauvre, parce qu'il ne relève pas les emplois qui nous occupent. On peut penser que, puisque c'est une apparition tardive, le dictionnaire du moyen français pourra nous aider. Si l'on consulte son article Junot, on y trouve cet emploi avec trois citations. La première occurrence provient des complaintes de Guillaume de Machaut. La deuxième occurrence, qui est un passage des miracles de Notre-Dame par personnage, correspond à la première attestation citée par Godefroy et le Dewaef. Et la troisième occurrence vient du livre de chasse de Gaston Phébus, daté de 1389. L'une des caractéristiques du dictionnaire moyen français consiste à ne rien dire sur l'intérêt des exemples qu'il produit. Les lecteurs qui ne consultent que ce dictionnaire ne peuvent pas savoir quelle est la place qu'occupent les attestations qu'ils ont sous les yeux. Dans le cas qui nous intéresse, il faut être passé par le DEAF pour savoir que l'exemple de Guillaume de Machaut pourrait être considéré comme l'une des plus anciennes attestations de l'emploi du genou appliqué à l'animal. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les articles du DEAF sont souvent complétés dans les addenda et corrigenda. Le sens de articulation de la jambe avec la cuisse chez l'animal a reçu ainsi une petite modification à la fin du volume H. On y trouve une nouvelle première attestation. Cet exemple est beaucoup plus ancien que celui de Guillaume de Machaut et celui des miracles de Notre-Dame par personnage, car il s'agit du lapidaire alphabétique en vers anglo-normand composé probablement par Philippe de Temps dans le premier tiers du IIe siècle. Cette œuvre n'a pas été numérisée ni dans Frantext ni sur le site de l'anglo-normand dictionnaire, mais elle a été publiée il y a 90 ans, en 1924. Comme pour le cas de l'adverbe « hâtivement » qui se lit dans le Voyage de Saint-Brandan, édité en 1928, les lexicographes n'ont pas prêté attention à ce qu'ils lisaient. En tout cas, l'attestation que l'on a ainsi découverte et qui est consignée dans la partie dissimulée du DEAF pourra nourrir le FEV de Wartburg, la partie historique du trésor de langue française et le dictionnaire anglo-normand. Les addendas du dictionnaire étymologique de l'ancien français contiennent bien d'autres premières attestations. Si vous les consultez, vous verrez que même les textes qui ont été édités depuis longtemps et qui sont à la portée de tout le monde fournissent, si on les relit avec un peu d'attention, des exemples précieux qui complètent notre connaissance du français. Il serait inutile d'énumérer tous ces cas que vous pouvez vérifier facilement sur la version papier du DEAF. Aujourd'hui, je vous rappelle seulement quelques échantillons pour que vous puissiez avoir envie de lire ces addendas. Parmi les publications du XIXe siècle, par exemple, on peut évoquer la chanson de geste Aïol, publiée à la fois par Wendelin Ferster en 1876-1882 et par Jacques Normand et Gaston Reynaud en 1877. Comme nous l'apprennent les addendas du volume H, ce texte nous apporte une nouvelle première attestation du verbe pronominal « entre-garder » qui signifie « se regarder l'un l'autre ». On lit en effet, dans la deuxième partie de l'édition Normand et Reynaud, une phrase qui contient le mot. La deuxième partie de Aïol étant datée de la deuxième moitié du IIe siècle, cette occurrence précède celle qu'on connaissait jusque-là. Car l'article « entre-garder » publié comme un dérivé du verbe « garder » dans le volume G du DEAF, donné comme attestation du verbe pronominal seulement deux occurrences du quatrième cycle du Saint Graal, édité par Eugène Huchet. Ces occurrences, qui datent d'environ 220-235, provenaient du dictionnaire de Godefroy. Comme Godefroy ne connaissait pas d'autres exemples, le FEV de Wartburg, qui a suivi, a considéré le mot comme un apax en ancien français. Quant au dictionnaire de Toblerone, dans leur article sur le préfixe « entre », ils ne faisaient que renvoyer à Godefroy sans y ajouter d'attestation supplémentaire. Il est étonnant que depuis les années 70 du XIXe siècle jusqu'à l'an 2000, où ont été publiés les addendas du volume H du DEAF, personne n'ait relevé pendant un peu plus d'un siècle l'occurrence du verbe pronominal « entre-garder » pour compléter ce qu'avait enregistré Godefroy. Parlons d'une autre publication du XIXe siècle. Il s'agit d'une des versions françaises de la règle de Saint-Benoît, composée par Nicole en vers octosyllabique au début du XIIIe siècle. On doit à Héron l'édition moderne de ce texte normand qui est apparu en 1895. Au vers 330, on lit le substantif féminin gulosité qui signifie désir démesuré. Cette attestation est la plus ancienne et elle est enregistrée dans les addendas du volume H. Donc il s'agit du mot. Singulosité ou volosité. En fait, le mot gulosité est rarement attesté en français. Le dictionnaire de Godefroy a deux articles. D'une part, dans son article Gulosité, paru dans le tome 4, il ne cite qu'un exemple, tiré de la Bible de Massé de la Charité, qui date d'environ 1300. D'autre part, il a un article Gulosité dans le même volume 4. On y trouve 9 occurrences, depuis Gautier de Coincy jusqu'à Jean Boucher. Dans leur article Gulosité, Tobler et Lomach se contentent de renvoyer à Godefroy sans ajouter rien de nouveau. Le FEV de Wartburg est fondé sur les deux articles de Godefroy, car dans son article Gulosus, il signale que le monde ancien et des moyens français, Gulosité, est attesté depuis le XIIIe siècle jusqu'à 1536. La date du XIIIe siècle correspond à l'occurrence de Gautier de Coincy relevée par Godefroy. La première édition de l'Anglo-Normand Dictionary relève une version rimée de l'Apocalypse qui date de la fin du XIIIe siècle. Et sa deuxième édition, parue sur Internet, y ajoute une autre version de l'Apocalypse qui est en prose et qu'on date du deuxième quart du XIIIe siècle. L'article Gulosité du volume G du DUAF reprend ces exemples tout en y ajoutant une autre attestation du moyen français. C'est après la publication du volume G qu'on a découvert la nouvelle première attestation dans la règle de Saint-Benoît, traduite par Nicole. Comme dans le cas de la chanson de Gestaïol, ce texte a attendu un peu plus d'un siècle pour être dépouillé avec un peu de soin. On peut s'en étonner, d'autant plus que dès sa parution en 1895, Gaston Paris lui avait consacré un long compte-rendu dans la Romania et qu'il avait souligné l'intérêt de certains mots contenus dans cette œuvre. Ce qu'on a constaté à propos de textes publiés au XIXe siècle s'applique également à ceux qu'on a édités au XXe siècle. Comme les publications se sont multipliées, les lexicographes n'ont pas toujours eu le temps de les dépouiller avec soin. On a donc intérêt à les relire, même si l'on a l'impression que tout a été bien dépouillé. Prenons comme exemple le siège de Barbâtre. Cette chanson de geste du premier tiers du XIIIe siècle a été éditée 3 fois. D'abord, c'est Joseph-Louis Perrier qui, en 1926, en a proposé une édition moderne d'après la version C. Ensuite, plus près de nous, Mme Emilia Muratori a publié en 1996 une édition fondée sur la version A, tandis qu'en 2000, M. Bernard Guidot a édité la version B. Bien que cette œuvre appartienne au cycle de Guillaume d'Orange, elle n'a pas beaucoup intéressé les lexicographes. La preuve, c'est qu'il a fallu attendre jusqu'à l'an 2000 pour qu'on s'aperçoive qu'elle contienne une première attestation de l'interjection à qui ? C'est avec H. Du reste, cette interjection n'avait jamais été traitée comme un mot à part jusqu'à ce que le volume H du DUAF lui ait consacré un article. Comme le dit Frank Bratmeren qui a rédigé cet article, la valeur du H intervocalique n'est pas très sûre. En tout cas, on peut en dresser une liste d'attestations. Pour l'emploi du mot comme interjection ouvrant avec une force expressive un discours direct, le rédacteur de l'article a relevé comme première attestation Raoul de Cambrai, qui date de la première moitié du XIIIe siècle. Elle est suivie de 3 autres occurrences qui vont jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Cette liste a été complétée dans les addendas et corrigendas du volume H. Là, on apprend que le mot est déjà employé dans le premier tiers du XIIIe siècle dans trois passages du siège de Barbâtre dans l'édition de Perrier. Cette publication de 1926 a donc attendu environ 75 ans pour qu'elle serve à nourrir l'article Haï du DEAF. Ce complément de l'article, inséré à la fin du volume H, nous apprend une autre chose. C'est que le mot a été employé non seulement au XIIIe siècle, mais aussi au XIVe siècle, car une attestation postérieure à celles qui ont été réunies dans l'article initial a été découverte dans une publication de 1996. Il s'agit de la version lorraine de la Consolation de la philosophie de Boèce, édité par Atkinson. Cette version elle-même est datée du premier tiers du XIVe siècle. Dans ce texte, une variante d'un manuscrit du XIVe siècle conservé à Berne nous fournit une occurrence de l'interjection « ahi » qui constitue sa dernière attestation. Le cas de cette interjection nous rappelle ainsi que les attestations charnières désignent non seulement les premières occurrences, mais qu'elle se réfère également au dernier témoin d'un mot, d'une signification ou d'un emploi. On peut s'intéresser aussi bien à la naissance de tel ou tel mot, sens ou emploi qu'à leur décès. Cette variante du XIVe siècle qui se trouve dans la version lorraine de la Consolation de la philosophie serait-elle une occurrence isolée ou bien, à la même époque, un peu plus tard, le mot serait-il encore attesté? Pour l'instant, ni le dictionnaire du moyen français, ni l'anglo-normand dictionary ne nous aident à répondre à la question. La réponse serait-elle donnée dans une des versions à venir de ces dictionnaires? Au moins, l'attestation du XIVe siècle qui se trouve dans cette Consolation de la philosophie mériterait d'être recueillie par le dictionnaire du moyen français. Puisque cette version lorraine de la Consolation de la philosophie a été publié pour la première fois en 1996, il n'est pas étonnant que les lexicographes y trouvent des attestations qu'on ne connaissait pas. D'autres éditions qui ont vu le jour depuis la fin du siècle dernier sont également utiles pour enrichir notre connaissance du français médiéval. Si vous lisez le dictionnaire étymologique de l'ancien français et ses addenda et corrigenda, vous aurez une liste de ces œuvres publiées récemment par des éditeurs courageux, grâce à qui on a des occurrences imprévues et intéressantes. Je pense, entre autres, aux textes comme les Proverbes de Salomon de Samson de Nanteuil, les commentaires sur les psaumes écrits pour Laurette d'Alsace, les sermons sur les cantiques de Saint Bernard, la continuation de la chanson de Jérusalem, le châtrier de l'abbé au bois, la version longue de l'histoire des Saint Graal, les fables d'Oude de Chériton, l'art de la chasse des oiseaux de Frédéric II, la genèse d'Evra. Si vous examinez ces textes et des publications plus anciennes, en les confrontant avec le DEAF, vous aurez sans doute l'occasion d'y faire des découvertes qui avaient échappé et qui puisse compléter notre connaissance. Même si ce dictionnaire ne couvre pas toutes les lettres de l'alphabet, la partie publiée nous apprend clairement quelles sont les attestations charnières des mots, de leur signification ou de leurs emplois divers. Il serait aisé d'y ajouter votre vaille si vous vouliez les comparer avec les indications données dans le dictionnaire. Avant de terminer, revenons à un cas dont j'ai parlé dans la première séance. Je veux dire le mot « a », la première lettre de l'alphabet. Puisque le dictionnaire étymologique de l'ancien français n'a pas encore publié son volume « a », il faut qu'on se débrouille pour trouver la première attestation du mot. Comme je vous l'ai dit il y a deux semaines, la première lettre de l'alphabet n'est pas recueillie dans le dictionnaire de Godefroy. C'est à Tomblay-Lomatch qu'on doit l'article consacré à ce mot. L'article contient huit citations qui proviennent des miracles Notre-Dame de Gautier de Coissy, du roman de charité de Rancle de Malien, du couronnement de renard, de l'ABC de Huon le roi de Cambrai et de Baudouin de Condé. Ils sont situés chronologiquement entre 1224 et la fin du XIIIe siècle. Voilà ce qu'on a vu il y a deux semaines. Si l'on se reporte à d'autres instruments de travail, qu'est-ce qu'ils nous apprendront? Si l'on consulte le dictionnaire de Littré, il cite l'ABC de Huon le roi de Cambrai dans l'historique de son article A. C'est donc un des exemples relevés par Tomblay Lomach et il date du troisième quart du XIIIe siècle. Cette occurrence est ainsi postérieure à celle de Gautier de Coissy qu'on connaît déjà. Le dictionnaire général a certes un article consacré à cette première lettre de l'alphabet, mais tout en indiquant son étymologie latine, il ne dit pas depuis quand le mot existe en français. Il cite dans son article deux exemples de Molière et un autre de voiture, mais cela ne veut pas dire que ce sont les témoins les plus anciens. Les occurrences précoces ne semblent pas avoir intéressé les rédacteurs. Ils n'ont pas préoccupé non plus Wartburg dans son FEV. Son article paru dans le volume 24 est divisé en deux alinéas. D'un côté, on a une interjection A, de l'autre, différents emplois de la première lettre de l'alphabet. Mais le deuxième alinéa commence par la locution marquée à la, qui, selon Wartburg, est attestée au XVIe siècle et puis au XIXe siècle. Tout se passe comme si le Moyen-Âge n'avait pas connu la première lettre de l'alphabet. L'indifférence dont témoigne le dictionnaire général et le FEV se retrouve dans le trésor de la langue française. Dans la partie historique de l'article A, on apprend que le mot est employé dans des expressions comme « être marqué à la », « ne savoir ni A ni B » et qu'il est utilisé également comme symbole dans certains domaines, mais la date d'apparition du mot A est passée sous silence. Ainsi, les attestations du XIIIe siècle qu'ont relevé Tobler-Lomach sont oubliées dans les principaux dictionnaires historiques. Est-ce qu'il ne serait pas possible de les compléter avec éventuellement d'autres exemples plus anciens? Naturellement, c'est possible. On peut soit commencer par lire des textes un peu au hasard, soit recourir à d'autres instruments de travail. D'après ma lecture personnelle, on trouve quatre autres attestations en ancien français. D'abord, le lapidaire alphabétique en vers composé probablement par Philippe de Temps dans le premier tiers du IIe siècle et qu'on a rencontré tout à l'heure à propos du Genoux. Ensuite, le livre de Sibylle qu'on attribue au même Philippe de Temps et qu'on date d'environ 1141. Et puis une chanson à la Vierge de Thibaut de Champagne qu'on date du deuxième quart du XIIIe siècle. Et enfin, un poème appelé « ABC Plante Folie » daté de la fin du XIIIe siècle. De son côté, l'Anglo-Normand Dictionary a relevé deux occurrences en ancien français et une autre en moyen français. Pour l'ancien français, il cite d'une part le lapidaire alphabétique en vers de Philippe de Temps, que j'ai trouvé aussi, et d'autre part, il cite un art de calendrier daté de 1256. La troisième attestation citée est plus tardive, car elle provient d'un traité d'enseignement de langue qu'on date du début du XVe siècle. Quel que soit le moyen employé, on aboutit au résultat suivant. L'attestation la plus ancienne de la première lettre de l'alphabet n'est plus celle de Gautier de Coissy, relevée par Tobler-Lomach, mais celle du lapidaire alphabétique qu'on date du premier tiers du IIe siècle. La deuxième attestation est également de Philippe de Temps, car elle se trouve dans son livre de Sibylle. C'est donc par une citation anglo-normande du lapidaire alphabétique qu'on peut commencer un dictionnaire du français médiéval. Comme vous pouvez le constater, notre connaissance du français médiéval s'appuie souvent sur le dépouillement fait de manière aléatoire par nos prédécesseurs. Si vous avez l'impression qu'ils ont découvert toutes les attestations charnières, vous vous trompez. Si vous lisez ou relisez des textes connus ou moins connus, vous y trouverez sans doute des occurrences qui puissent avoir une certaine signification dans l'histoire du français. Dans mon dictionnaire, j'ai essayé d'introduire discrètement quelques attestations précoces qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Vous pourrez le compléter très facilement. La technologie moderne peut être utile pour une recherche rapide. Mais si l'on ne se pose pas de questions pertinentes, on ne pourra pas interroger les textes électroniques. Et il y a des textes qui ne sont pas encore numérisés. De plus, les variantes peuvent avoir une certaine importance. Rien ne pourrait remplacer une lecture linéaire, un crayon à la main. Ce serait plus agréable et l'on aurait moins de risques de se crever les yeux. Merci de votre attention.